santé et le bien-être dans Maïssa Bora. Maïssa Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïssa Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Bien, l'entrepreneuriat attire de plus en plus des personnes, particulièrement les jeunes. On parle de plus en plus de l'agro-business aujourd'hui. Alors cependant, quel que soit le secteur dans lequel vous voulez évoluer ou bien vous évoluez déjà, il existe des principes à observer pour bien gérer les affaires, pour avoir atteindre les résultats escomptés. Alors autrement, c'est la faillite qui va s'en suivre. Quels sont les principes des bonnes gouvernances d'une entreprise? On en parle aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien avec Yves-Daniel Gavan, directeur général des DRC Business School et coach en développement personnel. Yves-Daniel Gavan, encore une fois, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors nous parlons aujourd'hui de l'entrepreneuriat, particulièrement des principes des bonnes gouvernances. De quoi s'agit-il là?
Merci beaucoup. C'est une des thématiques qu'on aborde rarement lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, parce que les gens prennent juste le début et la fin, c'est-à-dire commencer une entreprise et gagner l'argent, et ils oublient qu'entre commencer et gagner, au milieu, il y a le principe de gouvernance qu'il faut mettre en place pour pouvoir effectivement faire cette transition entre le moment où tu as l'idée de commencer ton business et tu te lances, et au moment où tu vas récolter les résultats attendus. Donc, le principe de gouvernance, comme on dit, parce que bon, il y a une guerre aujourd'hui des sémantiques. Il y a certains qui disent qu'on parler de la bonne gouvernance, c'est une sorte de tautologie positive, c'est-à-dire la gouvernance est déjà bonne en soi. Donc quand on parle encore de la bonne gouvernance, c'est aller encore un peu en excès, mais on comprend qu'on
c'est
veut
une redondance.
On veut insister un peu sur la chose. Mais la gouvernance en soi, c'est un concept polysémite. Comme tu l'as dit, ça s'applique dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de la gouvernance.
Pas seulement en politique, hein, parce que souvent on parle de la bonne gouvernance
en politique. Or, la gouvernance ou la bonne gouvernance, on en a besoin
dans tous les secteurs.
Dans tous les secteurs, même dans la vie de tous les jours.
Même dans les affaires.
Dans les affaires, même en famille, partout on a besoin de la gouvernance. Parce que gouvernance vient du verbe gouverner, qui veut dire diriger, gérer, conduire des choses en respectant un certain nombre de règles. Donc, lorsqu'on parle de la gouvernance en entreprise, la particularité, c'est que cette gouvernance s'appuie sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est que la gouvernance d'entreprise s'appuie sur la culture entrepreneuriale. Il vient renforcer l'idée de départ de cette entreprise pour que l'entreprise demeure longtemps dans son exercice et rester sur ses principes de base, ses règles, ainsi de suite. Deuxièmement, la gouvernance d'entreprise s'appuie aussi sur la performance. C'est-à-dire que c'est un levier de performance en termes de productivité. Lorsque on applique le principe de gouvernance, l'entreprise a la possibilité d'être performante et nous donner des résultats attendus. Donc, lorsqu'on fait la combinaison de ces deux facteurs, un soutien à la culture d'entreprise ou entrepreneuriale, la culture qui a mis en place cette société de par sa vision, sa mission, ses valeurs, et respecter toutes les réglementations liées à l'exercice de ces secteurs. Et ensuite, la gouvernance vient appuyer l'élan de la productivité pour que l'entreprise demeure performante et faire face à la concurrence, à la compétitivité qui est de plus en plus déclarée autour de différents secteurs. Donc voilà d'entrée de jeu des éléments que nous devons avoir en esprit lorsqu'on parle de gouvernance d'entreprise. Et ensuite, nous pouvons développer ces différents principes qui viennent cimenter effectivement, qui viennent décorer un peu l'aspect en ce qui concerne la gouvernance, ou encore, pour dire clairement, et qu'est-ce qu'on fait exactement pour arriver
Pour un jeune qui vient de créer son entreprise, dans l'agro-business par exemple, quels sont ces principes qui vont lui permettre de bien gérer ses affaires?
Ok. Il y a quatre principes essentiels pour pouvoir implémenter la gouvernance au sein d'une entreprise. Peu importe les secteurs, mais à des limites près, parce qu'il faut que ça soit adapté à les différents secteurs. Vous ne pouvez pas gérer les secteurs agricoles comme vous gérez les secteurs miniers, parce que chaque secteur a ses particularités. Mais en ce qui concerne le principe de base, le principe reste le même, mais on les adapte seulement au secteur. Le premier principe clé de la gouvernance d'une entreprise, c'est la planification. Donc, une entreprise, dès sa création, lorsqu'on a mis en place l'arsenal culturel en termes de visions, de missions, de valeurs, il faut dégager les procédures et les règles à respecter. Ensuite, il faut passer à la planification, qui est le premier principe de gouvernance d'une entreprise. Cette planification peut être stratégique ou peut être opérationnelle. Tout dépend de temps et de l'étendue de l'action, des actions qu'on compte mener. Parce que la planification, c'est quoi? C'est juste comme projet, tout projet, naturellement, il est de nature futuriste, mais il se prépare au présent. Donc, la planification nous aide déjà.
Qu'est-ce qu'il faut planifier déjà?
Il faut planifier, un, tout ce qu'on veut avoir.
Comme bénéfice?
Avant même de parler des bénéfices, il faut parler des ressources. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a une vision, on veut commencer. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Quelle est la quantité ou la quantité de ressources humaines qu'on aura besoin pour atteindre notre mission? D'abord, c'est ça. Parce que la
Par
première
exemple, quelqu'un qui veut se lancer dans la production de maïs, l'agro-business, qu'est-ce qu'il faut planifier? Le nombre des hectares qu'il faut avoir, le nombre de gens qui vont travailler dans les champs?
Tout à fait. Donc, il faut faire une étude de milliers afin de dégager, de comprendre d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement dans ces champs-là? Il te faut combien d'hectares? Il faut, tu dois avoir quel type de sol, par exemple, qui sont acceptables? Il faut faire une étude. Quelle est la quantité de semences qu'il te faudra? Est-ce que tu auras besoin d'un ingénieur agronome, deux ou trois? Et ils vont faire quoi exactement en définissant les tâches? Quels sont d'autres matériels? Est-ce que tu auras besoin d'un tracteur? Est-ce que tu auras besoin, je ne sais pas, de machettes, de ceci? Et définir toutes les quantités et faire une sorte de prévision en termes de ressources, que ce soit matériel ou financière, et ça te permettra en même temps de définir même un budget. Donc, c'est cette prévision, c'est cette planification qui est le premier élément de la gouvernance. Parce que généralement, les gens veulent avoir de l'argent et commencent à faire des dépenses non calculées. Et il se retrouve, il a dépensé beaucoup d'argent, mais à la fin, il n'y a pas eu assez de résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une programmation réfléchie ou une bonne planification, que ce soit stratégique ou encore opérationnelle, qui te permet de suivre chaque élément et de définir chaque élément suivant la chronologie des temps.
Et donc, souvent, on demande, souvent à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut toujours partir d'une étude du marché.
Oui. Ça c'est évident, Mais c'est l'aspect que nous négligeons souvent chez nous. Les gens pensent que le jour où il a l'argent, il est capable de tout faire et de gagner. Je connais des gens qui ont mis de l'argent dans beaucoup de secteurs, ils ont échoué. Tout simplement parce qu'on ne prend pas suffisamment de temps à étudier d'abord le milieu. Donc on pense que l'argent seul peut tout résoudre alors que
ce
n'est
facteurs,
pas du tout vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à contrario au mécanisme que tu comptes mettre en place. Donc l'étude du milieu te permet de cerner d'abord l'environnement, d'étudier tous les paramètres, de les contrôler au besoin et ensuite de projeter des actions qui vont aller dans le sens de contourner ou encore de confronter à ces difficultés afin de te donner la possibilité d'avoir une réussite. Mais si on ne prend pas le temps de faire l'étude du milieu, on ne sera même pas planifié parce que cette planification, c'est une résultante d'une étude qui a été menée au préalable, qui nous a permis de cerner les problèmes et de comprendre le contour de notre activité et de mettre en orbite un certain nombre d'activités sur lesquelles nous allons nous positionner à la longue.
Alors après la planification, quelle est l'étape suivante?
Le deuxième principe, c'est l'organisation. Il ne suffit pas seulement de planifier parce qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont restés au niveau de la planification parce que la planification est généralement sur papier, sur un document. Mais il faudra aller à l'exécution. L'exécution, c'est là où on a besoin d'une organisation. Et l'organisation peut être définie de deux manières. L'organisation en termes de la cohésion de différentes ressources, faire à ce que toutes les ressources puissent se coordonner, puisse se suivre pour donner les résultats. Mais l'organisation aussi, c'est en termes de la hiérarchie. En termes de la hiérarchie, c'est-à-dire la supervision. Qui fait quoi? Parce qu'on trouve généralement que dans l'exécution d'un certain nombre de projets, il y a trop de confusion.
Oui.
Vous allez vous rendre compte que vous avez une entreprise, mais votre épouse se permet de venir prendre de l'argent. Il dit au gérant, donne-moi l'argent. C'est l'argent de mon mari.
Oui.
telle chose, je vais amener ça à la maison. Donc, on sent que sur le plan organisation, il y a des failles sur le plan hiérarchique.
Oui.
Il n'y a pas de respect des principes, il n'y a pas de respect des procédures.
Il n'y a pas de job description.
Il n'y a pas. Et tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Et on vient le matin, on ne sait même pas ce qu'on doit faire, et chacun fait ce qu'il peut, et ainsi de suite. Donc, il y a un sérieux problème d'organisation.
C'est une entreprise qui ne va pas tenir longtemps.
Non, mais tu sais, il y a une étude qui a démontré que l'entreprise, une entreprise créée par les Congolais au Congo, une entreprise congolaise, ça a duré des vies et des 3 ans. Donc
seulement
de 3 ans seulement. Pourquoi?
Parce que ces principes ne sont pas respectés.
Ils sont pas respectés. Vous pouvez avoir une bonne idée, mais vous ne faites pas une bonne étude des milliers. Déjà la planification va poser problème. Mais si vous réussissez quand même à planifier, vous allez tomber dans les mauvaises organisations parce que tout le monde veut se faire patron. Chez nous, on a la culture d'être boss et on vient même si c'est ton business, tu viens en retard. Et tu donnes des ordres, tu gères tout au téléphone, tu fais ce que tu veux, parce que c'est mon business. Donc, on a un problème de culture organisationnelle au sein de nos entreprises. Or, l'exécution de tout projet, surtout en entreprise, nécessite une très très bonne organisation en termes de ressources, la gestion des ressources, mais en termes aussi d'application de certains nombres de principes pour que nous arrivions à un résultat escompté.
Alors, le troisième principe de gouvernance,
c'est la direction. Dans la direction, c'est là où on développe les aspects de leadership exemplaire. Si on veut la gouvernance dans une entreprise, on veut que, au niveau de la direction, qu'on puisse remarquer un leadership exemplaire. C'est-à-dire, le chef lui-même, l'initiateur de l'entreprise, doit prêcher par l'exemple. On doit sentir qu'il est le premier à respecter les principes. On doit sentir qu'il est le premier à marcher.
À venir à temps.
Voilà.
À venir à l'heure au bureau.
Voilà. Et ne pas faire des combines, ne pas voler, ne pas se voler soi-même, ne pas être dans l'arbitraire, ne pas être dans le clientélisme, dans les tribalismes,
voilà.
Ainsi de suite.
Faut prêcher par l'exemple.
Prêcher par l'exemple, être réaliste, être pragmatique. Parce que tout le monde, quand il vient dans une organisation, il doit avoir la tête. Comment fonctionne la direction? Et la direction, aujourd'hui, c'est un des paramètres clés dans la gouvernance. C'est pourquoi même au niveau politique. Si vous voyez qu'on a beaucoup de dérives qui amènent nos nations dans des difficultés énormes, c'est parce que ce principe de direction qui est un principe clé de gouvernance n'est pas respecté. On n'a pas de leaders exemplaires. On ne prêche pas par l'exemple. On est nous-mêmes dans les choses qu'on doit en principe condamner. Et là, c'est un coup sérieux face à la gouvernance. Et même en entreprise également, beaucoup d'entreprises échouent parce que le leader, les jours où il sait que c'est moi le propriétaire de l'entreprise, il ne se donne plus la peine de pouvoir être exemplaire et de motiver. Parce que quand on parle de la direction, il n'y a pas que l'aspect leadership exemplaire, mais il y a aussi l'aspect motivation. Il ne faudra pas que les gens qui travaillent se sentent désemparés. Parce que nous avons et la motivation intrinsèque, qui n'a rien à voir avec l'argent, c'est-à-dire la considération, le respect, l'environnement.
Il y a aussi les valeurs. Chaque entreprise a ses valeurs.
Tout à fait.
Par exemple, ça peut être la ponctualité, l'efficacité, le travail bien fait. Donc, si le leader, déjà, ne respecte pas les valeurs, c'est fini, c'est un coup dur.
Mais toutes ces valeurs...
Portées contre l'entreprise.
Voilà. Toutes ces valeurs que tu viens de citer, ce sont des valeurs intrinsèques qui, une fois respectées, ça génère une motivation au sein des agents, sans parler de l'argent d'abord. Quand on sent que nos valeurs sont respectées, nous sommes respectés, on nous prend au sérieux et on nous met dans les conditions qu'il faut, ça donne à chacun le sentiment de bien faire son travail. Et au niveau de la direction, on doit s'assurer qu'on ne marche pas sur les valeurs de l'entreprise, on ne va pas à l'encontre des valeurs de l'entreprise au point de détruire la motivation intrinsèque des agents, la fierté d'appartenir à une société.
Oui.
Et si cette fierté s'évapore, les gens vont travailler contre la vision de l'entreprise. C'est là où il y a la corruption, la nonchalance, ainsi de suite. Les gens viennent au travail juste pour s'attendre à l'argent et ils n'ont aucun intérêt à travailler dans ce sens. Mais il y a aussi, dans la direction, l'aspect communication. Donc, au niveau de la direction, si on veut avoir une gouvernance efficace d'entreprise, il faudra que les outils de communication ou les canaux de communication soient bien équilibrés, bien agencés et bien réfléchis. Parce que s'il n'y a pas la communication, ça donne lieu à des rumeurs. Et si vous gérez une entreprise, vous dirigez sur base des rumeurs, c'est catastrophique parce que les gens ne comprendront pas exactement quand est-ce qu'on prend une décision, pourquoi on a pris telle décision, et ça va créer du flou. Et ce flou va faire évaporer la transparence. Or, la transparence, c'est une des crèmes majeures dans la gouvernance d'entreprise.
D'accord, je reviens à vous tout à l'heure. Quels sont les principes de gouvernance d'une entreprise? On en parle aujourd'hui avec Yves-Daniel Gavin, directeur général dédié à CIBU Business School et coach en développement personnel. Nous avons en ligne Malonga qui nous appelle depuis Bandounouville. Vous avez des questions et préoccupations, composez les 081-890-6394.
Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tous les lundis à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Quels sont les principes de gouvernance d'une entreprise? Comment bien gérer son entreprise pour ne pas faire faillite? On en parle aujourd'hui avec Yves-Daniel Gavin, directeur général des DRC Business School. Malonga, vous êtes à Bandounouville et Jonas, vous nous appelez des Kananga. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bon retour à votre table de service.
Merci Malonga. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette thématique?
Merci. Je remercie d'abord l'invité qui nous a beaucoup vraiment enseigné par rapport à la bonne gouvernance d'une entreprise. Mais moi, je veux commencer seulement là-bas. L'entreprise, ceux qui s'engagent à ouvrir une entreprise, l'entreprise doit avoir d'abord cette condition de faire quoi? De bien répondre aux attentes de ses travailleurs. C'est par là où les travailleurs aussi vont réaliser, vont accomplir le devoir que l'entreprise aussi entend d'eux. Alors, si l'entreprise n'arrive pas à compléter ce que les travailleurs croyaient avoir à cette entreprise, je vois que ces principes vont échapper. Et c'est par là où la faillite est déjà prévisible. Alors, si aujourd'hui, je veux me référer à notre pays, puisque l'État, c'est une entreprise. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, vous voyez que tous les fonctionnaires de l'État sont niveau, à moins que les politiciens. Mais les fonctionnaires de l'État ne sont pas vraiment bien supportés par notre État. Vous voyez comment est-ce que le pays est bouleversé, est choqué. Alors, tout le monde se verse dans le secteur politique. Aujourd'hui, même si tu as étudié, même si tu as des matières, même si tu es qualifié, en tout cas, tu n'as pas cette compétence de réaliser ce que tu devrais faire.
Malonga, quelle est la question que vous adressez directement à l'invité, les autres attendent?
Ok. La question que je veux demander là, tout ce que l'invité vient de dire, c'est connu par les entrepreneurs, par les responsables des entreprises. Alors, qu'est-ce qui fait c'est ceux qui savent de ce principe-là, de la bonne gouvernance de l'entreprise. Mais eux-mêmes, leur CFP, ces entreprises, ou bien ces travailleurs, rentrent en faillite leur entreprise. Et ils savent que réellement, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la chute et le chute à leurs obligations. Mais qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que c'est la connaissance qui le manque, ou bien c'est la conscience, ou bien c'est quoi, ou bien c'est volontairement?
D'accord, donc il y a...
Encore,
voilà. Des gens qui connaissent bien ces principes de gouvernance, mais ils vont à l'encontre de ces principes-là. Comment expliquer cela? Merci. Jonas, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, merci. Je vous dis, moi aussi, je vous souhaite un bon retour sur le plateau et bonjour aussi à l'invité.
Merci, bonjour.
Merci, Jonas. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la gouvernance d'une entreprise?
Oui, merci. Nous tenons d'abord à congratuler l'invité pour son exposé grandiloquent. Tout le monde, il a rappelé aux uns aux autres comment la bonne gouvernance, c'est vraiment l'un des piliers de la démocratie. La bonne gouvernance constitue la base même de la démocratie. Et moi, je rappelle même que la bonne gouvernance, comme la justice, élève une nation. Bon, nous voyons comment les gens sont en train de gérer les entreprises publiques ou privées. Bon, mais il y a tout souci. Alors, moi, je vais tout droit à une question. Pourquoi beaucoup de gens, donc ceux qui dirigent les entreprises, pourquoi ils n'aiment pas les audits? Et lorsque, par exemple, on invite, admettons, les directeurs de la SNEL, de SNCC, lorsque, par exemple, il est invité à l'Assemblée nationale ou provinciale, pourquoi d'emblée ils présentent une certaine phobie? Au lieu d'aller répondre aux questions, si vraiment ils sont plusieurs...
Pourquoi ils ont peur des audits?
Oui, des audits. Et alors, je vais demander à l'invité, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'on attache à chaque service? Je ne dirais même pas est-ce que, je dirais pourquoi. Pourquoi on n'attache pas à chaque service une équipe minimum, ne fût-ce que pour faire les audits, chaque fois que l'entreprise a reçu un financement, ou bien pour ne fût-ce que des contrôles mensuels, hebdomadaires, afin de renforcer la bonne gouvernance.
D'accord, merci Jonas. Joël Zakissa, vous êtes à Mahagi, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à notre invité.
Quelle est votre question, Joël?
Allô? Oui, je suis vraiment intéressé par les sujets du jour, c'est vraiment capital. Ok, je voulais poser une seule question à monsieur l'invité. Et aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui se lancent dans des entrepreneuriats, mais vous allez voir que tout au début, vous aviez peu d'argent. Mais quand vous commencez à un peu trouver d'argent, maintenant, arriver à gérer les profits, là, n'est plus rien que vous gagnez là-ci, ça pose problème. Et surtout ici, nous n'avons pas de consultants, des gens consultés qui pourront quand même nous aider quand des problèmes, recourir vers les... En fait, ils nous donnent quand même des directives et pouvoir bien garder cet argent et évoluer dans le monde. Alors, monsieur l'invité là, donc comment faire en fait de bien maximiser les profits là que vous gagnez, en fait que ce que vous êtes en train de faire puisse croître? Parce que cela dépasse pas mal de gens. Il commence bien, arrive à un moment donné, et ça commence un peu à barder. À la fin du compte, on perd l'équilibre et on rentre totalement par terre. Là, c'était un peu la première question. Mais il y a une deuxième qui me vient en tête. La deuxième, vous pouvez avoir en tout cas une bonne manière de pouvoir entrer dans le monde d'entrepreneuriat. Maintenant, arriver et à créer les capitales, parce que là, nous fait un peu bizarre. Donc, vous avez quand même toutes les choses en tête pour pouvoir quand même vous aider à bien travailler. Mais vous n'avez pas maintenant la néo, donc les moyens de pouvoir trouver les capitales. Donc, qu'est-ce que envie de se ressourcer, trouver les capital quand vous avez fait...
Donc, merci Joël, oui, on a compris.
Puis,
d'accord, merci Joël.
On
a compris votre préoccupation. Kachai, vous êtes à Kanyuka et Platini Mbombo nous appelle de quelle ville Tati, il va nous le dire tout à l'heure, de Mbandaka. On va accueillir d'abord Kachai de Kanyuka. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à monsieur l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Monsieur Jody, je voulais tout simplement demander à l'invité, qu'est-ce qui fait que d'abord dans les entreprises de l'État, parfois l'on nomme celui qui n'a pas les profils exigés pour être soit directeur d'une ou d'une autre entreprise? On prend quelqu'un par rapport à sa couleur politique, par exemple, il a pesé dans la politique, il a fait trop du bruit, alors on le prend, on le met à la tête d'une entreprise, il commence à gérer sans tenir compte de son profil. Comment ça arrive comme ça? Alors que chez les privés, quelqu'un peut avoir l'argent pour entreprendre des affaires, mais il cherche quelqu'un là, d'autre, qui a des connaissances dans le domaine de ses activités. Alors, il le prend, il le met à la tête de l'entreprise, il commence à diriger. Mais chez l'État, c'est tout à fait une chose contraire, parce que vous avez pesé dans la politique, alors on vous connaît, on vous prend, on vous met là-bas, alors vous ne parlez plus. Ça, c'est une chose. De deux, monsieur Jody, la bonne gouvernance, comme l'invité l'a dit, ça table aussi sur la gestion orthodoxe des finances, de l'économie. On doit chercher à accroître l'économie. Alors, ben, je voulais aussi demander à l'invité quelques précisions concernant quelqu'un qui, dans sa famille, quelques membres de sa famille ont presque étudié. Ils ont des connaissances, mais il veut monter son entreprise. Alors, au lieu de prendre quelqu'un d'ailleurs pour que s'il commet des défis, il peut faire un audit, un contrôle, alors il prend seulement les membres de sa famille, il les met là-bas. Quand il commence à détourner, ils disent, bon, c'est comme ça qu'on dit en Chiluba, alors,
quand
il dit comme ça, ah oui, c'est chintuchet, notre quelque chose.
C'est notre affaire.
Notre affaire. Même si ça tombe en faillite, il n'y a pas de problème. Et ils oublient qu'ils vivent de ça.
Oui.
Et comme leur grand frère est là, bon, il va commencer à se demander, je vais être en justice contre qui, pour qui, et pourquoi, et donc tout ça, vous comprenez un peu de faiblesse. C'est pourquoi je voulais aussi demander, peut-il nommer à la tête d'une gestion de l'entreprise, à la tête d'une
entreprise, oui.
un membre de la famille qui par la suite pourrait causer la faillite à cette entreprise-là.
D'accord. D'accord. Chintuchetu. On va accueillir Platini de Mbandaka. Bonjour Platini.
Jordi, bonjour. Bonjour l'invité. Bonjour tout le monde. C'est Platini Mbombo depuis Mbandaka.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la gouvernance d'une entreprise?
Merci beaucoup Jordi. Je tiens d'abord à vous présenter une très bonne semaine à tous. Et aussi, je voudrais parler, parce que l'invité lui-même a dit, et aussi j'ai sali mon prédécesseur qui vient de parler. Bon, moi, première chose, premier aspect que je voudrais aborder dans ce sujet est que, comme on constate ici dans la ville de Mbandaka et partout ailleurs, je prends un aspect surtout sur les agences des systèmes des Nations Unies. Là, je prends des UNICEF, PAM, INESPIE, tout ça. Mais si on comprend bien, quelqu'un qui a déjà travaillé, soit au PAM, s'il y a un autre projet qui vient à UNICEF, on les prend toujours cette personne-là. Alors moi, souvent, je me pose la question. Pourquoi il y a beaucoup de...
Platini, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les principes de gouvernance dont nous parlons aujourd'hui?
Merci, Judy.
Il faut rester dans le sujet. Quelle est la question que vous adressez directement à l'invité? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Merci beaucoup, Judy. La question que je voudrais poser à l'invité... Surtout au niveau d'entreprises publiques de l'État, on a vu des vieillards papas qui ont beaucoup travaillé, mais jusqu'au premier du contre, ils n'arrivent même pas à sortir à la retraite pour équiper les jeunes gens. Qu'est-ce qui fait que la mauvaise politique tourne autour du entreprise publique de l'État qui est aujourd'hui à la démocratie du Congo? Si l'invité peut nous dire... Hein, à quel âge que quelqu'un peut quitter, laisser la place à une autre personne, c'est qu'on dit la retraite. Voilà ce que je voudrais avoir comme idée par rapport à ça, je dis.
Merci d'avoir appelé. Bien, nous parlons aujourd'hui de principes de gouvernance d'une entreprise avec Yves Daniel Ngavan, directeur général des DRC Business School. Yves Daniel, vous avez subi les différentes préoccupations des auditeurs. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je remercie tous les auditeurs qui ont appelé pour intervenir, soit compléter ou... chercher d'autres éléments de classement. Je pense que lorsque nous parlons de la gouvernance d'entreprise, comme je l'ai dit, et c'est la gouvernance d'entreprise, c'est la branche charnière entre le moment où on lance son business et les résultats qu'on veut avoir à l'issue de l'exercice de son activité. Donc, le principe de gouvernance prend en charge votre vision et vous conduit jusqu'au jour où vous devez avoir les résultats. Aujourd'hui, on parle même de la gestion axée sur les résultats. Donc, la gouvernance doit nous aider à nous conduire vers une gestion axée sur les résultats. Et en ce moment-là, il y a des principes de base, comme j'ai dit. J'ai parlé de la planification, j'ai parlé de l'organisation. Dans l'organisation où on doit...
La division du travail, la répartition du travail aussi.
Effectivement. En un mot, c'est ce qu'on appelle, il faut définir son style managérial. Donc, le style managérial en termes de l'administration, donc l'application de règles et des principes, et aussi des gestions en termes de l'utilisation rationnelle de toutes les ressources ressources humaines, matérielles, financières, de manière orthodoxe, comme l'a dit notre ami. Mmh. Ça fait partie de l'organisation et c'est le deuxième principe de la gouvernance. Vous allez vous rendre compte que si vous regardez nos entrepreneurs aujourd'hui, pose la question à un entrepreneur, est-ce que je peux avoir ton plan stratégique d'action d'ici 5 ans ? Ce que tu comptes faire dans les 5 ans à venir, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
C'est acheter les marchandises et venir les vendre. Même si tu vas au niveau de l'État, demander au ministère, demander à des services de l'État, est-ce que vous avez un plan prévisionnel ou un plan stratégique d'autant d'années ? Soit il y en avait ou ça n'existe pas, ou encore ils vous diront poliment que nous sommes en train de le mettre en place. Ça,
c'est alors qu'il n'y a rien.
Il n'y a pas.
Il n'y a rien.
Ce sont des réponses diplomatiques. Oui. Donc, nous travaillons pour en avoir dans les jours à venir.
Oui.
Ça, nous comprenons. Ça veut dire, il y a un vide. Et quand il y a déjà l'absence d'un plan stratégique ou un plan opérationnel, il y a l'absence d'une planification, vous péchez déjà contre la gouvernance de votre institution ou de votre entreprise.
Et or, on dit souvent gouverner, c'est prévoir.
Tout à fait. Mmh. Et ça commence par la planification. Ensuite, il faut organiser, il faut définir un style clair managérial. Il faut donner l'impulsion. Ensuite, il faut diriger. Il faut avoir un leadership exemplaire. Il faut savoir motiver. Notre ami a parlé des attentes des travailleurs. Ça fait partie de la motivation. La motivation fait partie des éléments clés dans la gouvernance. Parce que lorsque vous avez des gens qui ne sont pas motivés de manière intrinsèque, ou ils sentent qu'ils sont... Les droits ne sont pas respectés. Les valeurs de l'entreprise ne sont pas respectées. Ces gens sont frustrés. Ils ne donneront pas les bons résultats. Ils ne sont pas motivés. Ensuite, il y a la motivation extrinsèque, qui est la rémunération ou les autres formes de récompenses que la personne doit gagner. C'est là où on sent que, par exemple, au niveau de l'administration publique, c'est catastrophique parce que les gens, non seulement ils se sentent lésés dans leurs droits, la motivation intrinsèque a disparu, ils ont perdu la fierté. Aujourd'hui, quand on dit enseignant, fonctionnaire, on te regarde deux fois, on dit, mais c'est quel type de personne ? Alors ailleurs, c'est le contraire. Donc, on perd cette fierté, ça réduit la motivation intrinsèque. Et quand vous allez à la motivation intrinsèque, tout ce qui est salaire et tout, c'est encore catastrophique. Et dans ce climat, c'est difficile d'avoir une gouvernance, parce que les gens vont se retourner contre l'entreprise en détournant de l'argent, en volant par de mauvaises pratiques, ainsi de suite.
Malonga nous a dit qu'il y a des gens qui connaissent bien ces principes dont vous faites allusion, mais qui gèrent toujours mal, qui font autre chose, qui font le contraire de ces principes. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Mais c'est un peu le paradoxe que nous avons dans notre pays. Quand vous regardez les entreprises de l'État ou la plupart des ministères, ce sont des professeurs d'université qui sont à la tête depuis des décennies. Mais regardez le tas de notre gouvernance aujourd'hui.
On peut bien être professeur d'université, mais voilà. Sans connaître les principes
managériels. Non, mais c'est pour dire qu'on peut aussi le connaître, mais on n'a pas la volonté
de
l'appliquer. Donc, on est dans un système où on a défini notre modus operandi, c'est de voler l'État ou de détourner. Donc, c'est connu, il y a des poches d'ombre, quand il y a l'argent, il y a des répartitions illicites qui se font à gauche, à droite, et chacun trouve son compte et on ferme la bouche. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître ces principes, mais il faudra aussi et surtout les appliquer, avoir la bonne volonté et le courage de les appliquer. Donc, je ne dis pas que tous ces gens ne connaissent pas ces principes, c'est faux. La plupart des professeurs qui sont ministres, qui sont dans des entreprises publiques, ils connaissent ces principes. Et ils les savent. Voire même, ils les enseignent aux étudiants à l'université.
Mais ils ne les appliquent pas.
Ils ne veulent pas les appliquer, soit par mauvaise foi, soit parce qu'ils sont mis dans un système où ils se sont définis comme mode opératoire, la répartition de revenus.
Un système de prédateur.
Un système de prédation, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas seulement un problème de connaissance, mais c'est vrai, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas, surtout, là je mets l'accent sur les jeunes que nous encadrons et les entrepreneurs traditionnels qui ont la volonté d'entreprendre, mais qui pêchent par l'ignorance de ces principes.
De ces principes-là.
Donc, au niveau de DST Business School, nous avons tout un programme d'accompagnement et de coaching sur la gouvernance d'entreprise et que d'ailleurs, nous comptons déjà au mois de décembre lancer des activités d'accompagnement des jeunes en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise. Parce qu'on a vu des jeunes qui ont bien commencé, mais aujourd'hui, ils ont échoué.
Pourquoi ? Parce qu'ils se sont découragés,
qui pensent que c'est des fétiches, on ne m'aime pas, c'est des tracasseries, ainsi de suite. Ils cherchent des raisons ailleurs, alors que les raisons se trouvent dans la mauvaise application des principes de gouvernance.
Et pouvez-vous rappeler, passons au quatrième principe, on s'est limité au troisième principe.
Le quatrième principe de gouvernance d'entreprise, c'est le contrôle. Donc, vous ne pouvez pas assurer une gouvernance exemplaire si, au départ, il n'y a pas de contrôle. Il y a un de nos amis qui a parlé d'audit. Oui, l'audit et contrôle de gestion font partie
Jonas, voilà,
des éléments clés dans la gouvernance.
On il dit pourquoi les gens n'aiment pas les audits. Quand on dit qu'on va venir auditer une entreprise, les dirigeants ont peur.
Non, mais parce qu'ils ont perdu la crème de la gouvernance, qui est la transparence, la traçabilité. Les gens travaillent de manière floue. Aujourd'hui, il y a même des gens qui refusent qu'on puisse informatiser l'administration publique ou encore leur secteur. Parce que lorsqu'on va informatiser, on va numériser les secteurs.
Il y aura une certaine traçabilité.
Et les gens auront du mal à voler et à faire des combines. Et des gens résistent à cette innovation. Ils veulent qu'on reste avec du papier, qu'on peut déchirer, qu'on peut déplacer les dossiers, ça et là. Si seulement quelqu'un travaille de manière orthodoxe dans sa gestion, il n'a pas peur qu'on vienne auditer parce que tout est clair, tout est justifié, toutes
les procédures, écrites, les procédures sont respectées. Les dépenses engagées.
Quand on a peur, c'est qu'on se reproche de quelque chose. En principe, un bon gestionnaire peut se faire auditer à tout moment, sauf que s'il y a aussi trop d'audits, ça ralentit les travaux parce qu'il faut arrêter, parce qu'il faut produire des preuves, il faut discuter, il faut parler. Pendant ce temps, on peut le mettre à contribution pour la productivité au sein de l'entreprise. C'est pourquoi, quand on doit faire les audits, on prévoit des timings bien fixés pour permettre aussi aux gestionnaires de se préparer, de réunir tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire face à l'audit. Il y a aussi conseillé d'avoir l'audit interne. Déjà en interne, ces structures, je crois, il existe des auditeurs.
Des auditeurs internes et des auditeurs externes.
Qui viendront comparer un peu si les rapports donnés par les uns marchent. Il y a une convergence en termes d'informations, en termes d'éléments. Donc, le contrôle fait partie de l'élément clé de la gouvernance. Il n'y a pas que de contrôle en termes d'audit et contrôle de gestion, mais il y a aussi l'évaluation des performances. Aujourd'hui, vous avez, je me souviens, tu as fait une très belle émission sur les contrats de performance. Mm-hmm. Pourquoi on doit faire signer des contrats de performance aux agents? Parce que vous ne pouvez pas venir contrôler ou évaluer quelqu'un à la fin, alors qu'au départ, vous n'avez pas fixé des indicateurs sur lesquels vous allez l'évaluer. Mm-hmm. Donc, ça deviendra comme un contrôle policier. Vous venez arrêter des gens, vous venez intimider des gens.
Et pourtant, au départ, il n'y a pas eu des...
Il n'y a pas eu des indicateurs. Il n'y a pas eu des éléments bien définis sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir évaluer la personne. Comment vous allez dire à quelqu'un qu'il a échoué alors qu'il ne sait même pas qu'il devait faire telle ou telle autre chose et pour que vous qu'il sente qu'il a échoué, il a réussi. Oui. Donc aujourd'hui, le contrôle va dans le sens de l'évaluation des performances qui nécessite en amont que nous ayons des contrats de performance avec des indicateurs bien clairement établis et qu'on va suivre pas à pas à des périodes bien fixées pour pouvoir arriver à évaluer et à donner une note soit positive ou négative et voir comment le corriger. Mais aussi...
Un instant, on va accueillir Kapala de Moba et Baraka de Beni. Kapala, bonjour. Quelle est votre préoccupation, Kapala de Moba?
Oui, ma préoccupation avec Monsieur Jody, je voudrais juste poser la question à l'invité. Jusqu'à quand la RDC aura des top managers pragmatiques? Étant donné que vous pouvez avoir des professeurs qui disent bon professeur.
Kapala, la communication se détériore. La communication s'est détériorée. Je vais vous demander de vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut arranger les choses.
Oui, je voulais juste... Est-ce que c'est fait?
Oui, c'est bon maintenant.
Oui, je voulais juste savoir jusqu'à quand la RDC aura des top managers pragmatiques. Parce que nous voyons autant de professeurs qui se disent professeurs et qui œuvrent au sein des entreprises tant publiques que privées. Alors qu'il y a la gestion vraiment qui s'installe partout, presque partout, sur toute l'étendue nationale. Maintenant, je voulais savoir jusqu'à quand la RDC aura des top managers qui soient tellement pragmatiques de manière que nous puissions développer notre pays.
D'accord, merci. Baraka, vous êtes à Beni. Quelle est votre question? Nous parlons des principes de gouvernance d'une entreprise.
Oui, bonjour Radio Capi, c'est Mathieu Baraka depuis Beni. Je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout avec l'explication que vient de nous donner notre invité. Dans ce pays, en matière de la gouvernance, même dans nos entreprises, nous constatons qu'il y a toujours de la négligence. Comme le précédent auditeur venait de le dire, on a des gens qui connaissent tous ces principes, c'est vrai. mais par manque de volonté, surtout à cause des obédiences politiques, on a toujours des problèmes avec la gestion de nos entreprises. Alors je suggérerais à notre ministère, je ne sais pas le ministère des plans, de pouvoir former des jeunes après avoir terminé les universités ou soit des instituts supérieurs, de chercher à former des jeunes parce que nous sommes pour peut-être avoir le temps de créer des bonnes entreprises et de les gérer parce que nous sommes victimes de ce que nos prédécesseurs ont fait, même dans le gouvernement. On peut avoir des ministres, des autorités qui connaissent tous les principes, mais par des problèmes politiques, on parvient à se retrouver dans des pays où on est victime de toutes choses. Alors, j'avais aussi une autre question à poser à l'invité. Supposons que vous aviez, votre père avait une entreprise, maintenant, par malchance, il est décédé et vous êtes, il vous a laissé la charge et que lorsque vous aimeriez réorganiser l'entreprise, vous vous retrouvez que dans l'entreprise précédemment, il n'y avait pas ces principes de bonne gouvernance et quand vous aimeriez les introduire, les gens passent à autre chose. Que doit-on faire à ce moment? Merci beaucoup, c'est Maxi Barat de Tibé.
Bien, Pierrot Pagna, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi qui me suivent.
Quelle est votre question?
J'ai une question que j'aimerais poser parce que je n'ai pas assez de temps, je vais le prouver que j'ai. Je voulais poser mes deux questions sur base de, d'abord de l'entrepreneuriat que nous attendons des jeunes, que nous attendons dans les bouches de nos dirigeants qui viennent d'être nommés le président de la République qui parle de cet entrepreneuriat. Il est lui-même en train de se négocier des partenariats partout dans le monde. Alors ma question que je voulais poser était d'abord, je suis dit dans la bouche de notre invité, dit que lorsqu'on n'est pas en mesure de suivre les principes qu'il a cités là, donc ce que vous pouvez faire comme business, comme service qui peut vous produire dans votre boulot, alors ne peut pas revenir à être à court durée. Et le temps, là, je n'ai pas compris. Est-ce que ça fait, si on ne fait pas bien, ça ne va pas bien fonctionner jusqu'à combien de temps? Et pour que ça puisse aller très bien, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et moi, je vous dis, qu'est-ce que nous pouvons faire de demain? Et qu'est-ce qu'il peut aussi faire un coaching pour nous, les jeunes, parce que ce travail, nous, les jeunes universitaires, on forme plus souvent les demandeurs d'emploi. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir par là? Ça, c'est une première question. La deuxième question pour citer, c'était de suite au service public que nous avons. Nous, je suis en train de dire que c'est parce que les gens sont en mauvaise foi. On prend quelqu'un qui vient avec l'arrogance politique, on lui donne la responsabilité. Donc, il y avait quelqu'un qui pouvait faire ce grand travail-là. Et parfois, quand nous faisons, quand on prend, nous avons observé que quand on prend quelqu'un qui s'y connaît, parce qu'il n'est pas, il n'a pas tendance politique,
d'accord,
cette personne-là est combattue.
D'accord.
Qu'il est
merci. Arrivé. Merci, Pierrot. Merci, Pierrot. On va donner la parole à Glody. D'accord. On va donner la parole à Glody de Bandonville. Bonjour, Glody.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Capi.
Quelle est votre question, rapidement?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je crois que l'invité a tout parlé, a tout expliqué. Mmh. Alors moi, je passe juste aux petites questions que j'ai voulu poser à notre invité. Celle que si dans la ville de Bandonville, je connais un gars là, qui a son entreprise privée. Et à des fois, sa femme a le droit de venir à tout à l'heure, à tout moment, pour prendre de l'argent. Alors, parfois, ces vieux-là assistent quand même à des petits soucis, à des petits désordres qui se passent. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire dans ce problème? Parce que, à tout moment, sa femme est là en train de déranger. Si je viens demander l'argent chez les travailleurs, pourquoi est-ce que vous refusez à me donner l'argent chez l'entreprise de mon mari comme ça? Pourquoi est-ce que vous pouvez dire ceci, vous pouvez dire cela? Parfois, il appelle son mari pour l'intimider, les fonctionnaires qui travaillent là dans cette entreprise. Alors, ce vieux-là a un problème, il a un baisse quand même. Alors, il m'a dit de poser cette question. Qu'est-ce qu'il peut faire vis-à-vis de cette situation pour que il puisse rémunérer.
Donc lui-même, il est en train de suivre l'émission, mais il vous a demandé de poser la question.
Oui, lui-même, il est en train de suivre l'émission à ce moment-là.
Pas moi, d'accord. Le nom. Merci beaucoup, Yves-Daniel Gabal.
Merci. Je comprends l'inquiétude, mais c'est simple. Il peut d'abord arriver à définir les procédures et à respecter ces procédures. Et au niveau des DRC Business School, nous allons lancer la campagne au mois de décembre pour accompagner toutes les entreprises, surtout des jeunes entreprises, en difficulté en matière de gouvernance. Parce qu'il faut dire que le respect de principe de gouvernance est un choix stratégique pour la survie d'une entreprise et d'une nation. Donc c'est vraiment un choix stratégique qu'on doit opérer si on veut sauver son entreprise, c'est d'appliquer les principes de gouvernance. Même au niveau de l'État, si on veut aujourd'hui développer notre pays, si on veut faire de Congo un pays émergent, d'ici à l'horizon 2030, on doit faire ces choix stratégiques d'opter sur le principe d'utilisation et la maîtrise de principes de gouvernance. Alors, c'est possible de redresser sa structure. Nous avons aidé plusieurs
Il faut des procédures.
À définir les procédures
des manuels
claires,
de procédures claires.
Claires, mais aussi à former les agents, sa femme et tous les autres à la compréhension et à l'avantage d'appliquer ces procédures. Et à clarifier tout ce qui doit être fait, et ça doit être par écrit, parce que l'administration marche par écrit. On ne peut pas demander qu'on sorte l'argent sans respecter la procédure, que ça passe par la caisse, qu'on fasse des documents et que ça sorte, qu'on signe ainsi de suite,
et
qu'on classe
les
pièces
justificatives.
Donc, ne fût-ce qu'une petite comptabilité élémentaire d'abord, en ce qui concerne les finances, ne fût-ce qu'une petite administration simple pour les agents, les listes de présence, ainsi de suite, des rapports journaliers, ainsi de suite. Ce sont des choses auxquelles nous apprenons des entrepreneurs. Malheureusement, chez nous, les gens, quand ils ont l'argent, ils veulent juste commencer à avoir les résultats et ils minimisent tous ces paramètres. Et c'est là où on est en difficulté par moment, au bout de 3-4 ans, lorsqu'on a un peu plus d'argent et qu'on n'a pas des procédures, on commence à faire des dépenses émotionnelles et on finit même par rentrer dans le capital et détruire l'entreprise. C'est pourquoi on dit...
Yves Daniel, est-ce qu'on peut monter une entreprise, engager les membres de sa famille et réussir? Et mettre en place ces genres de principes et réussir.
Oui.
Il y a des entreprises comme ça qui fonctionnent de cette façon-là.
Oui, oui et non. La culture européenne, par exemple, on a des entreprises familiales qui marchent très bien. Papa, maman, les enfants et tout le monde. Et ils travaillent. Chez nous aussi, on a parfois des cas qui marchent, mais ça ne marche pas parce que on met trop de sentiments, trop de l'émotion.
Trop de laisser aller.
Trop de laisser aller et c'est pas rationnel. Donc, je pense que la meilleure façon de faire des choses, c'est de former des gens à comprendre c'est quoi les principes de gouvernance et les amener à comprendre progressivement et à les utiliser avec des outils adaptés. Parce que on ne peut pas aussi imposer aux gens un style managérial qu'ils ne comprennent pas, ils vont s'opposer. Parce que l'homme de nature aime le changement, mais il résiste quand le changement arrive. Donc, il faut mettre en place un style managérial assez souple qui permet aux gens de comprendre que ces principes sont bénéfiques pour l'entreprise et pour son intérêt aussi. Parce que si l'entreprise ne respecte pas ces principes, va faire faillite. Et quand ça fait faillite, tu rentres au chômage. Donc, tout ça, ça nécessite non seulement la planification, l'organisation, la direction, en termes de communication, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, il faudra que l'entreprise ou le gouvernement adopte un style de communication très efficace et très pointu.
Quelqu'un a dit tout à l'heure,
quelqu'un a dit tout à l'heure,
si on doit nommer des chefs d'entreprise en fonction des obédiences politiques, est-ce que c'est ces personnes-là, ces politiciens qui viennent à la tête des entreprises, est-ce qu'ils tiennent compte de tous ces principes dont vous faites allusion?
Je pense que... on peut aussi être de l'obédience politique et être compétent. Donc, je ne peux pas dire que des gens qui sont nommés sur les listes de partis politiques sont tous des incompétents. Non, nos partis politiques, ils regorgent aussi des techniciens. Mais le problème, c'est qu'il faut faire un choix rationnel au sein de nos partis pour trouver l'oiseau rare, pour trouver cette perle rare qui pourra effectivement rencontrer les desiderata de la population et être un vrai technicien au service de la nation. Mais si on met quelqu'un juste parce que c'est un bon parleur, c'est celui-là qui s'est insulté quand le parti est agressé et qui veut montrer au créneau et qui peut intimider des gens, en ce moment-là, on fait fausse route. Donc, je crois que le parti politique, c'est une école où on prépare des gens pour la gestion du pays, si réellement on les prépare, si c'est pas seulement là où on part chanter. Donc nos partis politiques aussi, il y a des cadres, mais malheureusement nous constatons que lorsqu'il faut nommer, on ne tient pas compte généralement des critères rationnels pour dénicher des bonnes personnes. Et aussi les pays, dans le pays, tout le monde n'est pas obligé d'être politicien.
Politicien. Et Kapala la demande, quand est-ce que le pays, la RDC, aura des top managers, des managers qui gèrent bien les entreprises et qui font des résultats extraordinaires?
On aura ce genre de manager que le jour où l'État congolais va accepter d'opérer le choix stratégique de travailler sur le principe de base de gouvernance. C'est un choix qui doit être dicté par les leaderships des hauts sommets. Par exemple, le chef de l'État qui doit décider que désormais, dans tous les secteurs, nous allons appliquer le principe de gouvernance et pas seulement décider, mais mettre en place des mécanismes de suivi pour voir si réellement tout le monde marche selon les principes, le grand principe tel que nous avons indiqué, que dans tout le secteur, il y a au moins une planification stratégique opérationnelle qui a une organisation assise avec un style managérial équilibré et dynamique, et aussi avec une direction performante en termes de leadership exemplaire, en termes de motivation à tous les niveaux et avec une bonne communication efficace.
Oui.
Et ensuite, on met en place un système de contrôle qui permet d'évaluer et la performance à tous les niveaux, mais aussi l'audit et contrôle de gestion sur tous les autres aspects organisationnels. C'est en ces moments-là que nous pouvons nous dire
espérer avoir des top managers.
Des top managers et marcher selon une gouvernance responsable et mettre soit l'entreprise ou le pays dans l'orbite de développement et de la pérennité à tout moment.
Yves Daniel, le numéro par lequel on peut vous joindre pour en savoir un peu plus?
Le numéro, c'est le 081-666-21-26. Donc 081-666-21-26 pour ceux qui veulent à ce que nous continuions l'échange au téléphone.
Bien, Yves Daniel Ngavan, directeur général de DRC Business School et coach en développement personnel. Merci et bon début de semaine.
C'est moi qui vous remercie.